C'est donc le premier bloc d'une série de trois sur la souveraineté alimentaire. Les propos que je vais présenter sont tirés des énoncés faits à la soirée organisée par la Coalition québécoise pour la souveraineté alimentaire et par UPADI, l'Union des producteurs agricoles développement international. Justement, il est bon de placer cette question de souveraineté alimentaire dans un contexte plus large que le seul territoire québécois ou canadien. André Lipietz, chercheur, politicien au Parti vert, qui a siégé au Parlement européen, voit depuis un certain temps une volonté de rétablir plus solidement une certaine souveraineté alimentaire en Europe, souveraineté alimentaire que l'on avait volontairement abandonnée dans le tumulte des grandes guerres. Alors je vous propose de l'écouter attentivement.
Progressivement, tous les accords trans-européens, enfin, européens et transeuropéens, c'est-à-dire entre l'Europe et le reste du monde, ont progressivement abouti à un retrait de la souveraineté, fût-elle partagée, des pays européens dans la capacité de choisir leur forme d'agriculture et même d'en faire fonctionner une indépendamment du reste du monde. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une décision souveraine de l'abandonner, cette souveraineté. C'est-à-dire que des États ont choisi de l'abandonner. Pourquoi ils ont choisi ? Parce qu'il y avait autre chose en échange. L'accès des marchandises industrielles, des marchés financiers, des produits financiers, des services financiers, en échange du droit d'accès et même des garanties d'un certain flux d'accès en oléoprotéagineuses vers le sol européen. Alors, petit à petit, c'est évidemment cette politique des élites est rentrée en contradiction avec le fait que les gens voulaient tout simplement savoir qu'est-ce qu'ils mangeaient. On a eu un premier accroc avec l'affaire du bœuf aux hormones. Du veau aux hormones, plus exactement. L'Union européenne a décidé, souverainement, qu'on n'importerait pas, on ne produirait pas de veau aux hormones et on n'en mangerait pas, donc on n'en importerait pas non plus. Ça, c'était une décision des gouvernements reflétant le refus général des populations européennes de manger une nourriture plus ou moins trafiquée. Bon, ça a été la dernière grande bataille. À l'Organisation mondiale du commerce, on a été sanctionné pour l'avoir fait. Mais on a accepté la sanction, très bien, on paye l'équivalent en limitation d'exportation de cognac ou de foie gras vers les États-Unis, ça ne coûte pas grand-chose. Au moins, les gens n'ont pas peur de manger du veau. Ensuite, sont arrivés les OGM. Alors là, ça a été, d'une certaine façon, la débandade. Pourquoi ? Mais d'abord parce que l'Europe avait changé. Elle avait accueilli des pays tels que l'Espagne ou tels que la Pologne, c'est-à-dire les anciens pays, les trois dictatures de l'Europe du Sud et les pays du bloc soviétique, en échange de la démocratie, sont rentrés, en échange du fait qu'ils acceptaient l'ordre démocratique, sont rentrés dans l'Union européenne. On les a encouragés à faire ça. Mais seulement, ces pays avaient une structure agrarienne, on pourrait dire, fondée de grands propriétaires, alors que ce soit des sovkhozes ou des kovkhozes, ou des grands propriétaires fonciers et latifondières en Espagne, qui est se moquer un peu de ces histoires, de faire attention à ce qu'on mangeait. Et les consommateurs n'en faisaient pas non plus une affaire, donc ces pays ont considéré que c'était un avantage comparatif pour eux de fonctionner avec des organismes génétiquement modifiés. Alors, donc là, l'Europe s'y est résignée. Pas vraiment. On a fait des compromis. On a dit un pays qui ne voudrait pas manger d'OGM a le droit de se sortir, de se réserver. Donc on a un peu désagrégé le marché commun. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous avez une révolte assez générale qui se reflète dans les positions maintenant des gens qui sont candidats à des élections. On a une peur de ces accords qui limitent la souveraineté alimentaire. On a un puissant mouvement social de réclamation de la souveraineté alimentaire. Je dis pourquoi. Ce n'est pas tellement des considérations militaires, évidemment, c'est la considération, mais qu'est-ce qui va se passer s'il y a une crise des transports ? Qu'est-ce qui va se passer si le prix de l'énergie augmente ? Qu'est-ce qui va se passer s'il y a une crise ailleurs dans le monde et qu'il n'y a plus de blé, etc. Donc cette crainte-là existe. La crainte médicale, sanitaire existe. Qu'est-ce que c'est que ces OGM ? Est-ce que ça va pas rendre malade ? On a mis des millions d'années à comprendre qu'il fallait manger les huîtres après les avoir cassées et pas avant. Donc on va maintenant, il va falloir réapprendre qu'est-ce qu'on a le droit de manger et pas de manger, etc. Il y a surtout la préoccupation écologique qui commence à prendre de l'ampleur. C'est vraiment aujourd'hui, on ne peut pas tout simplement diminuer massivement la production de gaz à effet de serre sans reculer sur les techniques de production agricole fondées sur les transports à très très bon marché, fondées sur la production industrielle d'engrais artificiels, etc., etc. Donc tout milite aujourd'hui, pour répondre à la question quel est l'avenir de la souveraineté alimentaire, vers une récupération de la souveraineté alimentaire. Mais évidemment, la question c'est à quelle échelle, régionale, locale, nationale, Union européenne, à l'échelle du monde entier, tout cela n'est pas encore très clair.
L'Europe va-t-elle réussir à rétablir des lois, des règles, des pratiques confirmant sa souveraineté alimentaire? Difficile à dire, difficile à faire aussi. Pensons par exemple au bouleversement dans l'Union européenne devant le Brexit, le vote des Britanniques pour se retirer de l'Union ou encore à une transaction majeure par laquelle Bayer, le géant suisse des chimies, a acheté Monsanto, le spécialiste de la production de semences modifiées génétiquement. Par la porte de Bayer, ces géants vont-ils réussir à étendre les OGM dans une Europe très réticente, à l'Ouest en tout cas? Ici Lionel Levac. Pour continuer d'alimenter la réflexion sur la souveraineté alimentaire, je vous présenterai aussi l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest. Mais juste avant, dans le prochain blog, les propos de maître Geneviève Parent, professeur de droit et titulaire de la chaire de recherche sur la diversité et la sécurité alimentaire à l'Université Laval. Donc, à bientôt.